France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un couac sur la coke, saisie record de cocaïne le week-end dernier à Dunkerque par les douaniers français. Mais l'information a été révélée, compromettant la suite de l'enquête. Les autorités suspectent une taupe infiltrée au sein du port. Explication à suivre. Nous avons échoué un an et demi après les massacres du 7 octobre en Israël. Le mea culpa des services de renseignement israéliens. La responsabilité du Premier ministre Netanyahou est aussi engagée. Nous serons à Jérusalem. Nous nous demanderons également si la méthode Trump fonctionne avec le canal de Panama. Un groupe américain vient de racheter deux ports du canal aux Chinois. Alors qu'Emmanuel Macron lui décide de parler de cette crise avec Donald Trump devant les Français. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Vous êtes à l'Élysée pour Inter. Intervention télévisée du chef de l'État ce soir pour dire quoi ?
Pour répondre aux angoisses des Français, assure son entourage, donner des perspectives, montrer qu'on peut agir. Emmanuel Macron qui affiche encore son volontarisme à la veille d'un sommet européen capital à Bruxelles.
A tout de suite pour vos précisions. À suivre encore, les apiculteurs d'Auvergne en pleine campagne pour piéger les frelons asiatiques.
L'alcool, c'est fait pour que les abeilles ne soient pas attirées, parce que les abeilles n'aiment pas l'alcool. Du sirop rouge et de la bière, par exemple. Pour éviter cette prédation, il faut essayer de diminuer un maximum le nombre de créations de nids secondaires et de colonies.
On va vous donner le mode d'emploi si vous êtes concerné. Les sorties cinéma de ce mercredi, coup de cœur et coup de griffe d'Alexis de Meyer dans une vingtaine de minutes. Et puis nous plongerons dans la tournée qui fait le plein en ce moment en France, celle du groupe Indochine, indémodable. À partir de 13h30, on parle des mères seules. Elles représentent près de 8 familles monoparentales sur 10. Mères seules dans les quartiers, dans les campagnes, parfois montrées du doigt quand elles se révoltent, selon le journaliste Selim Derkaoui, qui publie « Laisse pas traîner ton fils » 01 45 24. 7000 pour vos questions et témoignages. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la chorégraphe Marie-Agnès Gillot et le mannequin chanteur Romain Brault. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
10 tonnes de cocaïne, 20% des saisies annuelles en France, une cargaison d'une valeur d'un demi-milliard d'euros. Voilà ce que les douaniers du port de Dunkerque ont saisi le week-end dernier, une prise record. Jusqu'ici, pas de problème, succès des douanes françaises. Là où ça se complique, c'est que la confidentialité de cette information n'a pas été respectée et elle a fuité hier dans la presse, ce qui a compromis la suite de l'opération. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Il s'agit d'une fuite suspecte selon les autorités.
Une fuite insensée selon une source proche de l'affaire. Selon nos informations, les douaniers de Dunkerque avec quelques policiers étaient bien en train de planquer sur le port hier après-midi autour d'un conteneur récupéré il y a plusieurs jours, vidé de son énorme cargaison de poudre blanche, près de 10 tonnes de cocaïne, vous l'avez dit, remplacé par un produit ayant la même apparence, un dispositif qui a dû être levé hier après-midi après la fuite dans les médias de cette saisie de cocaïne. Et donc, depuis hier, que ce soit au ministère de l'Intérieur ou à Bercy, on évoque une possible taupe de narcotrafiquants, employés du port, douaniers, policiers ou autres informateurs. C'est déjà arrivé par le passé, mais pas pour de telles quantités de drogue avec un tel enjeu, puisqu'il s'agit de la plus importante, vous l'avez dit, saisie de cocaïne jamais interceptée en métropole. Un exemple, une cargaison de drogue avait été substituée il y a 2 ans à Fort-de-France en Martinique avec des contrefaçons de pain de cocaïne parfaitement imitées en espérant coincer le réseau devant récupérer le stock dans un port entre Le Havre et Anvers en Belgique. Mais il y avait eu justement une fuite. Le conteneur n'est jamais reparti de Fort-de-France. Opération annulée.
Alors on imagine que le ministère de l'Intérieur est furieux ?
Stupéfaction, même si pour l'instant que ce soit Place Beauvau au ministère de l'Intérieur ou à Bercy qui est la tutelle des douaniers, on se refuse à tout commentaire officiel et la juridiction nationale de lutte contre le crime organisé qui avait dénoncé hier soir la compromission de toute l'opération n'a pas souhaité en dire plus ce matin.
Information signée Emmanuel Leclerc. À Paris, la crainte de nouvelles agressions au couteau. Un mois et demi après la mort du jeune Elias, 14 ans, c'était fin janvier à sa sortie d'un stade parisien. Hier soir, le préfet de police de Paris a présenté un plan de prévention et de lutte contre le port et l'usage des armes blanches avec intervention de prévention des forces de l'ordre dans les établissements scolaires. Et puis à Nîmes, il y a 2 jours, c'est un collégien de 13 ans qui a été agressé, là encore avec un couteau. Ça s'est passé à l'intérieur puis près de son établissement privé. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Le principal suspect a été interpellé, un jeune homme de 16 ans. soupçonné d'avoir voulu venger sa petite amie.
Oui, selon les éléments recueillis pendant la garde à vue de cet adolescent, dimanche soir, sa petite amie lui fait part de moqueries dont elle dit avoir fait l'objet et elle désigne donc un collégien de 13 ans comme en étant l'auteur. La scène du lendemain après-midi a été filmée par quelqu'un qui se trouvait devant cet établissement Saint-Jean-Baptiste de la Salle. On y voit l'agresseur poursuivre le collégien en question, couteau à la main dans la cour, puis dans la rue, tandis qu'un surveillant essaye de s'interposer. Peine perdue, la victime est rattrapée un peu plus tard par son poursuivant qui lui assène plusieurs coups de couteau dans le dos avant d'être désarmé et prendre la fuite. Les jours du collégien ne sont pas en danger, mais s'il se voit quand même prescrire 45 jours d'ITT, le suspect est placé en garde à vue pour tentative de meurtre. C'est un jeune homme qui n'est pas scolarisé dans le même établissement, qui a déjà eu affaire à la justice. Il a rendez-vous le 14 mars devant le juge des enfants pour violence en réunion. Sa petite amie, 15 ans, est également entendue pour complicité de tentative de meurtre, des gardes à vue qui doivent se terminer dans la journée.
Merci Ariane Grissel pour ces précisions. Pour lutter contre les violences faites aux femmes, près de 5000 téléphones grave danger, grand danger sont désormais actifs, nous dit le ministère de la Justice. C'est 500 de plus qu'il y a un an. Ce téléphone permet, en appuyant sur une simple touche, d'être mis en relation avec un professionnel de la lutte contre ces violences.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Comment expliquer le désastre sécuritaire du 7 octobre ? Comment 1200 Israéliens, qui se pensaient protégés, à l'abri des attaques, ont-ils péri sous les balles du Hamas ? Parmi eux, près de 800 civils. Voilà des mois que les Israéliens demandent des comptes à leur gouvernement et attendent le résultat des enquêtes. Travail de transparence nécessaire dans une démocratie. Eh bien, ces enquêtes viennent d'être révélées, la dernière hier soir. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Thibault, la première enquête concerne l'armée et elle décrit de très nombreuses failles.
Oui, il y a en fait une quarantaine d'enquêtes de l'armée et elles s'intéressent chacune, lieu par lieu, au déroulement du massacre. Conclusion, 5000 terroristes du Hamas ont attaqué en trois vagues et les soldats israéliens sont systématiquement arrivés après la bataille. Dans chaque kibboutz ou chaque base de l'armée, le schéma est le même. Pendant deux heures, les assaillants ont l'avantage. Suite une période de retrait et puis les renforts débarquent en masse pour traquer les terroristes embusqués et évacuer les survivants. Trop tard donc, évidemment, les rapports pointent notamment du doigt la pagaille dans la chaîne de commandement.
La seconde enquête parle de l'action des services secrets intérieurs israéliens avant le 7 octobre. Services qui n'ont rien vu venir, Thibault, et le Premier ministre Benjamin Netanyahou est mis en cause.
Oui, alors les signes de l'imminence d'une attaque existaient et le Shin Bet reconnaît ne pas avoir été capable d'alerter au plus haut niveau. Et puis les enquêteurs, vous l'avez dit, sonnent la charge contre Benjamin Netanyahou au pouvoir pendant 13 des 15 années qui ont précédé le massacre et donc responsable à leurs yeux d'avoir créé les conditions de l'attaque. Pour l'ancien diplomate Yigal Palmor, le Premier ministre a notamment autorisé le financement du Hamas par le Qatar.
C'était tout à fait la ligne de Netanyahou. Donc il ne peut pas se dédouaner d'avoir soutenu cette ligne avec les autorités du Qatar.
À chaque événement dramatique dans l'histoire d'Israël, les autorités ont monté une commission d'enquête d'État pour déterminer les responsabilités. Il n'en est pour le moment pas question pour Benjamin Netanyahou, dont le discours de lundi avait des relents trumpistes. Il a notamment estimé que les conclusions d'une telle commission seraient biaisées par l'influence de ce qu'il a nommé l'État profond.
Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Le nouveau chef d'état-major de l'armée israélienne lui estime ce matin que la mission à Gaza n'est pas terminée. Fin de citation. Dans ce contexte auquel on peut ajouter le plan de réarmement annoncé hier par l'Union européenne jusqu'à 200 milliards d'euros, jusqu'à 800 milliards d'euros, les industriels du secteur se portent bien. Leurs cours en bourse ont progressé ces dernières heures après une année 2024 déjà très bonne. Bonjour Louise Buyance.
Bonjour.
Le groupe Dassault Aviation présenté ce matin ses résultats de l'an dernier. Son bénéfice net a augmenté de 30%.
À plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un résultat net de 1 milliard d'euros, c'est du jamais vu chez Dassault. Et c'est grâce aux ventes de Rafale à l'étranger. Son PDG, Éric Trappier, s'en félicite.
On a réussi la montée en puissance du Rafale, puisqu'on avait prévu 20, on en a fait 21, tout en préparant le futur de l'aviation de combat pour la France.
Et peut-être pour les pays voisins, si l'Europe de la défense voit le jour, le patron assure que Dassault en a les capacités.
Si les Européens s'organisent entre eux pour monter en puissance, oui, on répondra favorablement à ces demandes. Dassault est très bien positionné parce que Dassault a les compétences. On a une opportunité extraordinaire de se dire qu'en France, on a des compétences indépendantes des Américains. Quel autre pays peut dire la même chose en Europe ? Ça nous inquiète ?
Actuellement, l'avionneur peut produire 3 rafales par mois et il affirme que la cadence peut monter à 4, voire à 5 si les commandes augmentent. Mais Dassault, ce ne sont pas que des avions de combat. Les avions d'affaires, les Falcon, risquent de souffrir si les États-Unis mettent à exécution la menace d'une taxe à 25% sur les produits européens.
Ça nous inquiète fortement. Il faut augmenter les prix. Comment vous voulez faire ? Moi, je ne sais pas absorber 25% d'augmentation de tarifs douaniers sans augmenter mes prix.
Et pour l'instant, l'industriel ne prend pas en compte l'impact de cette potentielle taxe sur les objectifs de cette année.
Merci Louise Buyens. Alors, suspension de l'aide américaine à l'Ukraine, guerre commerciale, vous venez de nous en parler, Louise. Emmanuel Macron a-t-il senti à la faveur d'un déplacement express hier après-midi dans un village de Lyon que ces informations alarmaient les Français ? Toujours est-il qu'il va s'exprimer ce soir à la télévision et à la radio, à suivre sur France Inter à partir de 20h. Marie Mollet, on vous retrouve, vous êtes en direct de l'Élysée où se tenait ce matin le Conseil des ministres. Emmanuel Macron veut en fait prendre les Français à témoin ?
Exactement, Emmanuel Macron parle ce soir pour répondre aux angoisses des Français, d'après l'un de ses conseillers. Pas d'annonce majeure à prévoir, nous dit-on, mais une explication sur l'accélération des événements, ce moment de bascule, et notamment sur la redéfinition de la relation entre Paris, l'Europe et Washington, relation évoquée à l'issue du Conseil des ministres par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas.
Hier, une partie des effectifs ont été déplacés sur Nanterre, qui est une commune limitrophe, donc...
Alors Sophie Primas, effectivement, qui soulignait tout à l'heure la gravité dans ce, à l'issue de ce Conseil des ministres du moment. Il faut que Washington, disait-elle, reste nos alliés. Et puis tout à l'heure, ce soir, lors de son allocution, le président doit aussi donner des perspectives sur l'agenda diplomatique à venir, hein, promet l'un de ses proches. Mais c'est un agenda dont Emmanuel Macron n'est pas maître, agenda parfois confus aussi. Tout à l'heure, la porte-parole du gouvernement a annoncé qu'un déplacement du président à Washington était envisagé à court terme. En fait, non. Annonce aussitôt démentie par l'Élysée. Et puis enfin, ce soir, le président doit revenir aussi sur l'effort de guerre qu'il souhaite pour augmenter les dépenses militaires. Il lui veut passer à 3% du PIB. Mmh. Mais comment le financer ? Qui et quoi serait sacrifié ? Soit on augmente les impôts, soit il faudra travailler plus, résume un proche du président. Et ce sera le choix que le gouvernement devra faire pour le budget 2026, a éludé tout à l'heure la porte-parole du gouvernement.
Merci Marie Mollet. Avec les moyens techniques de Nicolas Mathias. Deux nominations ce matin à l'occasion de ce Conseil des ministres. L'ex-ministre Sarah El Haïry prend la tête du Haut Commissariat à l'enfance. Ancien ministre, lui aussi Clément Beaune, devient Haut Commissaire au plan. Le président de la République Emmanuel Macron, qui dans la foulée, donc juste après son allocution de ce soir, va recevoir à l'Élysée le Premier ministre hongrois Viktor Orban. C'est l'un des rares soutiens en Europe de Trump et de Poutine. Les deux hommes se retrouveront ensuite demain pour un sommet consacré à la défense à Bruxelles. Les 27 devront approuver ou pas le plan de réarmement annoncé hier. Parmi les 27, un pays a été la cible la nuit dernière de Donald Trump lors de son discours devant le Congrès, c'est le Danemark. D'une manière ou d'une autre, nous obtiendrons le Groenland, a redit Trump hier soir. Le Groenland, territoire autonome danois, cela ne se produira pas, réagissent les Danois ce matin. Donald Trump qui a répété hier soir que son pays allait aussi reprendre le canal de Panama. Passage obligé en Amérique centrale pour les navires en transit entre l'océan Pacifique et les Caraïbes, le canal est aujourd'hui propriété du Panama, le pays. Mais ces dernières années, les entreprises chinoises ont racheté de nombreux ports le long de ce canal. Et bien, deux de ces ports viennent d'être rachetés par un groupe américain. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes notre correspondant en Chine. La pression du président américain a-t-elle payé ?
Alors oui, hein, on peut le dire comme ça parce que cette transaction a été extrêmement rapide, à peine quelques semaines pour obtenir le quasi-départ des Chinois et l'arrivée de ce fonds d'investissement américain qui va donc désormais gérer les deux ports de Balboa et Cristobal situés aux deux extrémités stratégiques du canal de Panama. Cela répond entièrement aux attentes de Donald Trump, qui avait dénoncé la présence de gardes chinois sur place pour empêcher, selon lui, le passage des navires américains. Alors, cette transaction express est-elle purement commerciale ou bien y a-t-il un caractère politique? C'est ce que laisse entendre la Chine cet après-midi. Pékin parle de pression et de coercition et dit à demi-mot que l'entreprise hongkongaise qui a cédé ses participations dans les deux ports, l'entreprise Hutchison, n'a pas bénéficié d'un environnement juste et équitable, et les autorités chinoises réaffirment qu'elles n'ont jamais contrôlé le canal. Il s'agit là, je cite, d'un pur mensonge. Difficile de dire dans quelles conditions précisément s'est déroulé le départ de la société Hutchison, mais une chose est sûre, en quittant le contrôle des deux ports, les Hongkongais ont réalisé une très belle opération financière en empochant la coquette somme de 19 milliards de dollars.
Merci Sébastien Berriot, en direct de Pékin. L'industrie automobile européenne est, et notamment en raison de la concurrence des Chinois, en danger de mort. Voilà ce que dit ce matin Stéphane Séjourné, le vice-président de la Commission européenne, qui présente un plan pour aider nos constructeurs à basculer vers l'électrique. Il en fera d'ailleurs la promotion cet après-midi dans une usine, celle de Renault à Douai. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Est-ce qu'il y a vraiment du neuf dans ce plan, Fabien ?
Oui, sur certaines des priorités que se donne la Commission européenne, certaines sont certes déjà connues, mais n'ont jamais été vraiment traité. Par exemple, le manque de bornes de recharge électrique, il n'y en a pas assez en Europe, cela doit changer, écrit noir sur blanc la Commission. Les concessionnaires le lui ont dit ces dernières semaines, c'est un frein à l'achat tout autant que les prix qui restent trop élevés. Sur les bornes de recharge, le plan présenté ce midi prévoit donc de puiser dans un fonds doté de 570 millions d'euros pour accélérer le déploiement de bornes électriques et hydrogène. Et sur les prix, la Commission envisage des aides pour les entreprises assorties d'obligations sur la proportion de voitures zéro émission dans leur flotte de véhicules. Vous savez, c'est un enjeu doublement important. D'abord parce que 60% des véhicules neufs immatriculés aujourd'hui en Europe sont des véhicules professionnels. Et parce qu'une fois revendus, ces véhicules nourrissent un marché de l'occasion qui fait baisser les prix à l'achat pour les particuliers. Enfin, dernier levier, Jérôme, des aides pour les fabricants européens de batteries électriques plus chères que celles qui viennent de l'étranger. Ça fait aussi monter les prix. Des aides sans montant précis à ce stade, qui seront assortis de nouvelles exigences sur la provenance européenne de leurs composants.
Fabien Cazot, pour Elon Musk, en revanche, ça va mal en Europe. Ses ventes de Tesla ont chuté de 76% en Allemagne entre février 2024 et février 2025, alors que les ventes d'électriques, elles, au total, ont progressé dans le pays. C'est un dossier dont on parle très peu, d'abord parce que l'actualité internationale est dense, et puis il s'agit de Français détenus à l'étranger, donc les autorités reste discrète. Les proches des trois Français retenus en Iran ont été reçus ce matin au Sénat. Cécile Kohler, son compagnon Jacques Paris, mais aussi Olivier Grondeau, tous trois otages, c'est le mot qu'emploie la diplomatie française, otages depuis 2022. Bonjour Lou Bourdi.
Bonjour.
Vous étiez au Sénat ce matin. Les familles demandent un dénouement rapide.
Oui, ils disent qu'il y a urgence. C'est ce qu'ils ont répété toute la matinée. Urgence parce que désormais, les jours de leurs proches sont comptés. Écoutez Tristan, il est ami et porte-parole d'Olivier Grondeau, retenu depuis 2 ans.
Il prépare sans doute une grève de la faim. Il n'a pas encore pris sa décision, puisque c'est une décision extrêmement grave, qui peut avoir des séquelles irréversibles, mais face au mois qui s'égrène, eh bien, il en est à cette extrémité.
Olivier menace donc de faire une grève de la faim parce qu'il subit des conditions de détention insoutenables, comme Cécile et comme Jacques, le couple d'enseignants. La sœur de Cécile a pu les avoir au téléphone.
L'aspect physique de Jacques, déjà, est très inquiétant. Il a le visage vraiment très creusé, c'est terriblement inquiétant pour nous. Quant à ma sœur, pour la première fois lors de cet appel, elle a exprimé ouvertement son désespoir. Il y a vraiment une urgence vitale à les sortir de là.
Des conditions inhumaines, on est traité comme un animal, témoigne ce matin devant les sénateurs un ancien otage. Il s'appelle Louis Arnaud et il a été retenu dans la même prison de Téhéran.
On est en état de survie. Vous êtes dans une cellule de typiquement de 8 ou 9 mètres carrés. Il n'y a rien dans cette cellule, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de meubles. On vit, on dort, on mange à même le sol. Et vous vivez sous l'œil des caméras.
Et à ça, vous l'imaginez, s'ajoutent les harcèlements, les humiliations, les menaces. Louis Arnaud a finalement été libéré le 13 juin dernier.
Merci Lou Bourdi. Alors cette actualité, et nous en avons conscience, est génératrice de stress et c'est un facteur qui est largement sous-estimé dans les causes des maladies cardiovasculaires, deuxième cause de décès en France. Le cardiologue Pierre Sedbon publie justement un livre aujourd'hui sur ce sujet. Il estime que le stress devrait être beaucoup plus pris en compte par les patients et par les médecins.
Le stress est l'oublié du courrier du cœur, aussi bien des patients qui ont tendance à le minimiser en se disant « c'est du stress, c'est rien », que c'est le plus grave pour moi, les médecins aussi. Alors pourquoi ? Parce qu'on a très peu étudié le stress. La seule étude qui dit qu'il faut se méfier du stress par rapport au cœur, au risque cardiaque, est sortie en 2013, étude très sérieuse, où on s'est attaché à voir quel était le risque cardiaque chez des gens en particulièrement stressés à la City, à Londres. Elle dit, cette étude, tout simplement, que se sentir stressé double le risque d'avoir une crise cardiaque. Les médecins devraient prêter plus attention aux plaintes concernant le stress de leurs patients.
Le cardiologue Pierre Sedbon au micro de Victor Dolande, votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur, c'est aux éditions Le Duc. Du soleil, des pointes à 20 degrés cet après-midi pour les températures dans le sud-ouest. Le printemps pointe le bout de son nez, on verra ça en détail dans 10 minutes avec les prévisions météo de Sébastien Léas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est déjà le moment d'agir contre le frelon asiatique, danger pour la biodiversité, responsable d'environ 20% de la mortalité dans les ruchers. Et la filière, les apiculteurs s'organisent en ce moment pour freiner la propagation de cet insecte. Ils posent des pièges. Lauriane Navarre l'a constaté en Auvergne. Elle a pu suivre un apiculteur.
Jean-Luc Beaureau nous emmène dans sa réserve.
Tout ça, c'est des pièges, frelons.
Cet apiculteur basé à Augerolles, dans le Puy-de-Dôme, a testé différents pièges pour capturer le frelon asiatique. Et un seul est réellement efficace.
Et donc, le frelon rentre par là, parce qu'il y a de l'appât ici.
C'est quoi comme appât ?
C'est du sirop, parce qu'il faut que ce soit sucré. On fait un tiers d'alcool. L'alcool, c'est fait pour que les abeilles ne soient pas attirées, parce que les abeilles n'aiment pas l'alcool. Du sirop rouge et de la bière, par exemple. Il rentre par là, il passe au milieu, il est bloqué sur les deux côtés, et tous les insectes, globalement, peuvent sortir.
Sauf, évidemment, le frelon, et à cette période, les fondatrices.
Celles qui vont construire les futurs nids qui vont venir prédater dans les ruchers. Pour éviter cette prédation, il faut essayer de diminuer un maximum le nombre de créations de nids secondaires et de colonies.
Jean-Luc Beaureau est aussi le référent frelon asiatique pour le groupement de défense sanitaire apicole du Puy-de-Dôme. Et depuis l'an dernier, une expérimentation est en cours. 75 pièges ont été distribués.
Pour qu'il y en ait un petit peu partout dans le département, et on a demandé à ce que ceux qui installaient des pièges fassent des relevés tous les 15 jours et nous disent ce qu'ils avaient piégé comme frelon asiatique et comme insecte pour voir si le piège était bien sélectif, c'est-à-dire que les abeilles peuvent sortir, ça ne piège pas les abeilles, et les moustiques, les mouches, tout peut sortir.
L'expérimentation suit son cours et cette année, le syndicat des apiculteurs du Puy-de-Dôme a acheté ces pièges pour les proposer aux adhérents.
Un reportage ici, Auvergne.
Moteur !
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Et nous accueillons Alexis Demeyer pour ses conseils du jour. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
On va commencer par l'Égypte et un documentaire, Les filles du Nil.
Nous sommes dans le sud égyptien à El Barsha, un village où des jeunes filles de la minorité copte décident de monter sur scène pour revendiquer leurs droits. Le duo de documentaristes Nadar Iyad et Ayman El Amir filme ces adolescentes au plus près, caméra à l'épaule, dans des scènes saisissantes où la dénonciation du patriarcat, très spontanée, prend tout son sens. Ce très joli film, récompensé à Cannes en mai dernier, nous donne des nouvelles précieuses de la jeunesse égyptienne post-printemps arabe. Je vous précise qu'à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, 1 euro sera reversé à la Fondation des femmes pour chaque place achetée.
Vous nous conseillez aussi, Alexis, un film italien sobrement intitulé Anna.
Oui, c'est le prénom de l'héroïne de ce long métrage décroissant et tiré d'une histoire vraie. Anna est une trentenaire solitaire qui élève des chèvres dans les collines de Sardaigne. Mais la construction d'un gigantesque complexe hôtelier au pied de sa ferme va déclencher sa colère.
Non, mais non, vous devez construire quoi ? Vous êtes un homme.
mia, ve ne dovete andare adesso.
È un atto di proprietà, lo porti in direzione.
Telle une Manon des sources des années 2020, Anna doit tout autant résister aux promoteurs immobiliers qu'aux villageois misogynes, même si le film de Marco Amenta souffre de quelques faiblesses et de moments trop programmatiques, il nous emporte grâce à sa puissance romanesque et ses paysages renversants.
Programme décidément très féminin, puisque la féminité est aussi au cœur du documentaire musical Peaches Go Bananas.
Oui Jérôme, car comme son titre l'indique, c'est à la rockeuse canadienne Peaches qu'est consacré ce film qui transpire l'esprit punk. Pendant 17 ans, la réalisatrice française Marie Lozier a suivi l'icône queer et féministe dans ses tournées, mais aussi dans sa vie quotidienne.
My body is different from 20 years ago. I get tired a lot. But I want to continue to...
Ce documentaire débordant d'énergie permet de mieux connaître Peaches, cet artiste insaisissable et souvent très drôle, dont le sens de la provoque n'est jamais gratuit.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
Mickey 17, la nouvelle folie du coréen Bong Joon-ho avec Robert Pattinson dans le rôle d'un employé qui se tue littéralement à la tâche. Le système Victoria, chronique sociale dans le quartier de la Défense avec Jeanne Balibar et Damien Bonnard. Et Black Dog, formidable western moderne made in China, tourné dans le désert de Gobi.
Merci Alexis Demeyer. Comment fait-il ? Le basketteur américain LeBron James a battu la nuit dernière un nouveau record.
Il a 26-20 games this year. LeBron, open 3.
3 points de LeBron James avec son équipe des Lakers face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans et la barre des 50 000 points durant sa carrière a été franchie. Il était déjà le meilleur marqueur de la NBA depuis 2 ans. LeBron James, 40 ans et 4 fois champion NBA qui poursuit sa route. Eux aussi sont un modèle de longévité. Indochine, groupe révélé en 1982, est toujours sur les routes 40 ans plus tard. Tournée triomphale en ce moment partout en France, dont 4 concerts cette semaine à Bordeaux, tous complets à tel point que 2 autres dates ont été rajoutées en décembre prochain. Ils étaient 10 000 hier soir pour assister aux 2h30 de show. Quelle est la recette, Alexis Arad ?
Au pied de la scène, Isabelle est une vraie groupie. Ce n'est pas son premier concert de la tournée.
Mais bien sûr que non, c'est mon 6e. Et il m'en reste encore 4 à faire. Eh ben ouais, on tourne. On a déjà fait Orléans, on a déjà fait Amnéville. Là, on fait Bordeaux. On va aller faire Toulouse. Mais oui, mais voyons.
Beaucoup dans la salle sont des fans de longue date comme Lionel.
Bon, ça fait des années qu'on l'écoute depuis gamin. 43 ans, je suis né avec ça. Ben forcément, hein, quand tu nais avec, tu l'écoutes et ainsi de suite, et tu le transmets. Et puis ben, quand ils sont là, tu vas les voir quoi.
Venu avec sa compagne Géraldine, pour qui l'important...
C'est les textes. Clairement, c'est les textes, sans aucun doute. Ça ressemble à tout le monde et à personne. Ça peut appartenir, oui, vraiment à chacun.
Des textes qui ont séduit Justine, 18 ans, venue avec sa mère.
Je l'ai découvert grâce à mes parents. C'est vraiment une tradition, les paroles d'Indochine, tout le monde les connaît, je pense.
Un public très hétéroclite qui ravit Nicolas Sirkis sur scène.
Si on passe la semaine comme ça, ça va être difficile de survivre. Merci de votre accueil, encore une fois, l'Aquitaine. Merci beaucoup.
Indochine se produit sur la scène de l'Arena encore 3 nuits cette semaine.
Tournée d'Indochine, suivie hier soir par Ici Gironde, et puis ce sera dans d'autres régions dans les prochaines semaines. Vous n'oubliez pas que vous nous écrivez pour participer et pour être membre du jury du prix du Livre Inter. C'est jusqu'à lundi si vous voulez être avec nous. 24 jurés, 12 femmes, 12 hommes. L'adresse, vous la connaissez, vous allez aussi sur le site internet d'Inter. 13h28. À suivre dans la prochaine demi-heure, Sébastien Léas est là pour le temps toujours très ensoleillé de ce mercredi. À partir de 13h30, nos invités, le journaliste Selim Derkaoui, qui a grandi avec sa mère seule et qui s'intéresse à ces femmes qui élèvent seules leurs enfants, mal vues, voire criminalisées, nous dit-il. Il publie « Laisse pas traîner ton fils » aujourd'hui. J'attends vos questions 01 45 24 7000. Évidemment, nous serons également avec Manon Lefebvre, qui est procureur des mineurs au tribunal de Lille. 13h45, notre feuilleton, vous aimez l'écrivain Joël Dicker, vous êtes nombreux, nous partons toute cette semaine dans les coulisses de la sortie de son dernier roman. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Éric, les droits des femmes en France sont mis en cause, grignotés dites-vous.
Oui Jérôme, en particulier le droit à l'avortement et celui à la réparation après une excision.
à tout de suite. Et avec vous, Frédéric, une danseuse.
Marie-Agnès Gillot, ancienne danseuse étoile du ballet de l'Opéra de Paris. Elle est actuellement en tournée avec un solo qu'elle donnera cette semaine à Marseille. Avec elle, nous écouterons une chanson de son ami Romain Brault. Et puis nous parlerons également de son handicap, une double scoliose qui l'a très longtemps obligé à porter un corset quasiment toute la journée.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Le danseur oriental. À Constantinople, Gulgul, jeune lutteur et calligraphe au palais du sultan, assiste à la fin de son monde. Entre mystères des maisons closes, trahison et amour pluriel, le danseur oriental raconte la fin d'un empire ottoman qui vit ses dernières heures. Le danseur oriental de Metin Arditi, un roman envoûtant aux éditions Grasset.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
C'est pas très difficile pour vous cette semaine, c'est un peu la même météo tous les jours finalement.
Pas vraiment, il y a toujours des petites nuances dans ce ciel bleu. Alors cet après-midi,
bon, c'est toujours du soleil en tout cas.
Effectivement, après-midi très largement ensoleillé avec un ciel quasiment tout bleu, on passera presque sous silence les bandes nuages élevées qui circulent entre le Massif central et les Alpes. Ce voile est parfois dense mais l'impression reste assez lumineuse. En revanche, le vent venu de la Méditerranée se renforce, l'OTAN va d'ailleurs souffler jusqu'à 80 km/h dans son domaine et apporte de plus en plus d'humidité. Alors pour l'instant, les nuages concerne essentiellement le Roussillon, mais ils vont avoir tendance à s'étaler vers le sud de l'Hérault. Ces entrées maritimes seront beaucoup plus étendues et beaucoup plus compactes demain. Le début de journée a été plutôt frais, avec encore quelques gelées sur les régions de la moitié nord, mais les maximales sont très nettement au-dessus des valeurs de saison. Généralement 4 à 7 degrés au-dessus des valeurs d'un début mars. L'écart est quand même moins marqué sur les régions méditerranéennes. Cet après-midi, prévoyez 15 à 20 degrés en général, avec 17 degrés pour Paris, Brest, Toulouse et Marseille, ou encore 20 degrés pour Biarritz. La hausse des températures va aussi concerner les minimales de demain. Les gelées seront donc plus faibles, mais aussi plus rares, ne concernant que le quart nord-est.
Merci Sébastien Léas. Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Selim Derkaoui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant et vous publiez ce livre que vous qualifiez d'enquête politisée, intitulé « Laisse pas traîner ton fils, comment l'État criminalise les mères seules ». Et on va revenir sur la première et la deuxième partie du titre durant cet entretien. C'est aux éditions « Les liens qui libèrent ». 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent nous rejoindre et vous poser leurs questions. Posez leurs questions également à Manon Le Fèvre, bonjour, que nous avons également invité avec vous. Vous êtes procureur des mineurs au tribunal de Lille, secrétaire national du syndicat de la magistrature. Nous vous avons invité aussi parce que c'est vrai que dans ce livre, dans cette enquête, Selim Derkaoui, vous expliquez à quel point élever seul des enfants, c'est compliqué lorsque le père n'est pas là pour récupérer la pension notamment, c'est un combat, on va en parler ensemble. Et puis c'est difficile aussi pour garder ses enfants dans le droit chemin, et on s'est rendu compte notamment à l'occasion des émeutes de 2023 que beaucoup des jeunes qui avaient été interpellés à ce moment-là après la mort du jeune Naël étaient issus de familles monoparentales. Selim Derkaoui, ce récit, il part de votre histoire intime. Histoire personnelle, vous avez grandi à Hérouville-Saint-Clair, c'est près de Caen, vous pouvez nous raconter ?
Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai grandi effectivement à Hérouville, qui est dans la banlieue caennaise. J'appelle ça un peu la banlieue des campagnes périurbaines aussi, parce qu'on parle souvent de la Seine-Saint-Denis. C'est bien de parler un peu des banlieues de province également. Et en fait, moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale avec ma mère et mes deux sœurs, puis ensuite mon père qui m'a élevé seul également. Et en fait, moi, mon enquête, c'est important, c'est que je pars de l'intime pour parler ensuite des choses politiques, c'est-à-dire des choses que j'ai vécues au quotidien, que ma mère, elle a vécu au quotidien aussi, c'est-à-dire le fait d'avoir des contrats aidés, des mi-temps, et puis de devoir nous élever aussi en parallèle, d'avoir toujours des problématiques aussi liées à la CAF, à devoir avoir quelques centaines d'euros à peine de prestations sociales pour combler justement les trous du fait d'éduquer les enfants et en même temps de travailler à côté, dans des métiers du soin. La plupart du temps, les mères seules, dans les quartiers populaires, mais aussi dans les campagnes, elles font beaucoup des métiers liés aux soins, de par aussi l'éducation qu'elles donnent aux enfants. Donc tout ça est lié, et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse de partir de l'intime.
Vous vous souvenez des fins de mois difficiles, de cette galère, du combat de votre maman, ou vous en avez pris conscience plus tard ?
Alors sur le moment, j'en prenais plus ou moins conscience, mais c'est vrai que c'est venu quand même plus tard, parce que dans le livre, j'insiste à peu près, notamment sur le passage où où elle était toute seule avec ma petite sœur.
Vous avez combien de sœurs?
J'ai deux sœurs.
Vous avez deux sœurs, vous êtes trois?
Oui, exactement, on est trois. Et les liens qu'elles ont créés toutes les deux, et là, moi aussi, j'avais grandi à ce moment-là aussi, donc finalement, j'avais un peu plus de recul. J'étais déjà journaliste, notamment à ce moment-là, pour un magazine qui s'appelle Frustration. Et j'enquêtais déjà sur les questions sociales, parce qu'au fur et à mesure, mon père aussi était, lui, brancardier, il était syndiqué, donc il y avait déjà une politisation. Moi, j'appelle ça que c'est du militantisme dans la chair, en fait, au quotidien. C'est-à-dire que les réformes, on les subit. Finalement, la politisation, elle vient vers nous. Et comment dire, c'est à partir de là que j'ai constaté qu'elle avait des soupçons par rapport à la CAF du fait de rencontrer quelqu'un d'autre, le fait que si elle, comme mère seule, elle rencontre quelqu'un d'autre, son quotient familial baisse, et du coup elle est menacée de suspension, pareil aussi, de certaines cotisations sociales, etc. Donc ma sœur et ma mère ont entretenu un rapport comme ça en allant à la CAF, en se déplaçant et en essayant justement de trouver un petit peu des alternatives pour éviter que justement la CAF aille trop loin dans l'intime pour justement justifier des petites aide sociale, c'est vraiment très... On parle de cinquantaines d'euros ou de centaines d'euros à peine.
Grandir seul avec sa mère, j'ai envie de dire que c'est une situation classique, puisque vous le rappelez, 82% des familles monoparentales sont des mères qui ont la garde de leurs enfants en France.
Exactement, c'est principalement des femmes pour l'essentiel. Et en fait, il y a 2 millions de familles monoparentales en France, sur 8 millions de familles. Mais en fait, le chiffre, il est déjà très sous-estimé, parce qu'en fait, les 2 millions, ça comprend que les enfants mineurs, pas les enfants majeurs. Sauf qu'on sait très bien qu'en plus, avec la crise sociale et économique, avec l'inflation... les jeunes, ils restent de plus en plus longtemps chez leurs parents. C'était le cas aussi de ma sœur, c'était le cas de ma part aussi. Et forcément, le chiffre, il est beaucoup plus fort que ça. Et en majorité, ce sont des femmes. Les pères, en général, ils sont ce qu'on appelle démissionnaires, c'est-à-dire que soit ils partent au moment de la grossesse, soit ils partent après. Et en fait, du coup, ça, c'est quelque chose qui est quand même très important à signaler. Et c'est pour ça que je parle de mère seule, de mère isolée, et non pas de famille monoparentale qui masque une problématique qui est fondamentalement genrée.
Alors, on va parler justement de cette problématique dans une minute. D'abord, je voudrais qu'on accueille une auditrice qui nous appelle du département des Hauts-de-Seine. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous voulez pas que je dise votre prénom, donc je vais pas le donner, mais je voudrais quand même savoir si vous vous reconnaissez dans le profil de Selim Derkaoui et de sa maman, dont il vient de parler à l'instant. Maman, dans les quartiers, banlieue de Caen. Alors, qui non. Élève seule 3 enfants.
Non, je me reconnais pas, je suis désolée. Je me reconnais pas spécialement parce que j'ai eu de la chance, enfin, mon fils a eu de la chance de vivre, parce que nous, on habite dans les Hauts-de-Seine, une banlieue assez favorisée de l'Ouest parisien. Et ensuite, moi, ma situation est différente puisque mon fils a perdu son père tragiquement. Il est décédé en 3 mois de temps d'une maladie foudroyante. Donc, c'est vrai que le tableau, il est différent. Je me suis retrouvée seule du jour au lendemain. Oui, je suis d'accord avec lui dans le sens où moi, je travaille dans le soin. Je suis infirmière avec des postes et des familles éloignées en province. Donc, c'est vrai que je me retrouve seule. Où on a la mère a endossé une double casquette de papa et de maman, un métier difficile puisque je travaillais dans les services de d'urgence, donc c'est assez difficile. Je n'avais aucune aide sociale. Donc après, le problème c'est qu'aujourd'hui, la femme est toujours la mère au foyer, la mère célibataire, la mère solo, enfin je ne sais pas comment on l'appelle. Elle est toujours un peu caricaturée de victime ou si l'enfant ne va pas bien, ou l'enfant, moi j'ai de la chance, mon fils, lui, il a pas mal tourné, il a suivi des études, après j'ai aussi...
Mais l'autorité, c'est difficile ?
Comment ?
L'autorité, c'est difficile, vous dites il a pas mal tourné, ça veut dire que ça a été une préoccupation pour vous ?
Moi, c'était mon inquiétude, de le laisser seul. Après, on trouve des astuces, on a le téléphone, on a l'entourage, je suis entourée aussi d'amis, les professionnels scolaires connaissaient la situation. Donc, j'ai été assez entourée à ces niveaux-là, mais il n'empêche que on ne peut... moi, j'ai été obligée d'y penser en permanence.
Merci pour votre témoignage. Je voudrais faire réagir Selim Derkaoui parce que vous faites des parallèles, des ponts entre mère seule dans les quartiers et mère seule avec des situations plus favorisées, voire même dans les campagnes. Et cette préoccupation-là pour est-ce que mon fils il va ou ma fille va vriller, c'est une préoccupation que vous avez rencontrée parmi plusieurs de vos interlocutrices.
Tout à fait. Ça, quelle que soit la classe sociale, c'est quand même une préoccupation qui est quand même assez courante. Mais finalement, c'est ce que me dit aussi une intervenante qui s'appelle Sonia. Enfin, j'ai changé son prénom, ouais. Qui habite à Nanterre, c'est qu'en fait, ce qui va faire la mère isolée, c'est aussi l'environnement social, l'environnement géographique, qui va en fait empirer les situations et qui va faire en sorte qu'effectivement, on a encore plus peur pour son enfant, qui tourne mal, si par exemple, il n'y a pas de... Et c'était le cas pour Naël, d'ailleurs, dans son collège, où les profs n'étaient pas remplacés, des choses comme ça. Donc finalement, ça va venir en bout de chaîne, et il y a une accumulation, finalement. La mère seule, d'un milieu aisé, elle va subir principalement aussi des discriminations liées au genre. C'est-à-dire que la pension alimentaire qui ne va pas être versée par l'homme en question, l'ex-conjoint, ça c'est des choses qui arrivent assez récurrentes, mais des femmes isolées, des mères isolées en milieu dans les quartiers populaires, ouais. Elles vont subir aussi d'autres discriminations en fait, liées à leur classe sociale, liées au fait que finalement elles vont pouvoir avoir moins de facilité à pouvoir demander des horaires un peu souples par rapport à leur employeur, si elles ne sont pas cadres, etc. Donc en fait tout ça, ça va être des espèces de cumulation de difficultés, et pour en milieu rural, les mères isolées en milieu rural, ça va être aussi d'autres choses aussi qui vont se multiplier, la distance, l'utilisation de la voiture. C'est aussi pour ça qu'il y avait beaucoup de mères seules gilets jaunes. C'est à ce moment-là aussi, pendant le mouvement des gilets jaunes, on a beaucoup parlé des familles monoparentales dans les cahiers des doléances. Mmh. Donc c'est à ce moment-là que ça a ressurgi, parce que finalement, quand il y a une situation de crise économique et sociale, même si elle est assez continue, elle ressort dans des moments comme ça extrêmement importants politiquement.
Est-ce que ce sont des profils, Manon Lefebvre, vous qui êtes procureur des mineurs au tribunal de Lille, secrétaire national du syndicat de la magistrature, que vous voyez dans votre bureau quand vous accueillez peut-être les parents de jeunes mineurs délinquants? Est-ce que ce sont des profils surreprésentés? Et que vous disent ces parents quand vous discutez avec elles, ces mères en l'occurrence?
Alors, dans les fonctions que j'ai quittées donc, pour rentrer au syndicat en janvier, il y a une surreprésentation des femmes isolées, parce que les pères sont absents, sont dans l'abandon de leur responsabilité parentale. En tout cas, elles sont surreprésentées, donc souvent stigmatisées, parce qu'elles sont seules titulaires de la responsabilité parentale. Enfin, titulaires ou pas, d'ailleurs, les pères le sont parfois toujours, mais en tout cas, elles sont seules à avoir la charge de cette responsabilité parentale, et on ne voit qu'elles, on ne fait les commentaires qu'à leur rencontre, et les pères sont pas là pour recevoir ces commentaires. Donc oui, c'est vrai que c'est une surreprésentation des mères qui sont souvent seules à rester. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et il y a un risque aussi qu'on ne parle qu'à elles, et en fait qu'elles soient les seules à prendre sur leurs épaules tous les commentaires négatifs qu'elles peuvent recevoir sur ce que sont devenus leurs enfants, alors même que elles peuvent être dans une posture d'encadrement adapté, qu'elles sont juste dépassées par une situation qu'elles n'arrivent pas à gérer, et ce qui peut arriver pour tout parent en réalité. Et je pense que dans vos auditeurs et auditrices, il y a des parents qui vont se reconnaître sans pour autant, ouais, connaître de situations sociales difficiles, et sont stigmatisés pour ça. Sur le reste des analyses, je laisse ça aux sociologues, uh-huh, évidemment, mais oui, évidemment qu'on le voit, et elles sont d'autant plus abandonnées qu'il y a un abandon plus général d'un ensemble de services publics, y compris de la justice via l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse, qui évidemment n'aident pas ces mères isolées.
Parce qu'il y a des dispositifs normalement pour les aider, pour encadrer leurs enfants.
Ah bah, des enfants qui commettent des infractions à un instant T peuvent évidemment faire l'objet d'un accompagnement, et ça passe par l'accompagnement des parents, puisque c'est un travail collectif qu'on doit mener avec les familles, et que si les moyens mis pour l'accompagnement de ces familles est défaillant, évidemment que l'accompagnement l'est d'autant plus. Et il y a un réel abandon. Tous les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, ouais, et de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent le dire.
Est-ce que vous avez constaté que c'était plus difficile pour les mères qui se retrouvent avec leurs fils qu'avec leurs filles? Est-ce que c'est plus difficile avec les garçons qu'avec les filles? Parce qu'il y avait surreprésentation de garçons aussi. Je reviens aux émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Il y avait surreprésentation de garçons dans les actes de délinquance qu'on a enregistrés à cette époque-là.
Oui, les chiffres, ils sont assez clairs sur la surreprésentation masculine. Autant il y a une surreprésentation de femmes dans la gestion familiale et parentale, mais il y a une surreprésentation masculine. Après, elles ne sont pas plus faciles à gérer que les garçons une fois qu'elles sont devant nous. En tout cas, je ne l'ai pas constaté, mais il y a plus de garçons que de filles dans les tribunaux pour les mineurs et pour les majeurs, de toute façon, de manière générale.
Alors, dans votre livre, Selim Derkaoui, vous avez rencontré de nombreuses mères, dont Christine qui a 66 ans, qui a élevé seule 7 enfants à Commercy, dans la Meuse, donc une ville de petite taille, si je puis dire. Elle s'est débrouillée seule, on a pu la joindre ce matin. Voilà ce qu'elle nous dit sur le regard des autres, mais aussi sur les relations avec l'administration, avec laquelle il faut composer, toujours sans le soutien du père des enfants.
Mon premier mari a joué le jeu hein, de la séparation avec la pension alimentaire pour mes premiers. Par contre, mon second compagnon, qui avait de gros problèmes de santé, il était alcoolique et du coup violent, lui, par contre, il a été dans le déni tout le temps. Et pour mes deux derniers, j'ai touché environ 50 euros par mois et par enfant. Donc vous imaginez que c'est la galère. Mais j'étais tellement contente de me débarrasser quelque part de lui, même si c'est moche de dire ça, que ben, j'ai pris les 50 euros par enfant et puis je ne voulais plus du tout entendre parler de lui, quoi. Quand on est seul, déjà avec deux papas différents, hein, on a une étiquette qui vous colle malheureusement dans le dos. Et puis, ben, oui, la suspicion, je dirais étatique, de toutes les instances, la CAF, France Travail maintenant, enfin, on est toujours suspecté de, je sais pas, de tricher sur quelque chose.
Voilà le témoignage de cette femme que vous avez rencontrée, Selim Derkaoui, à Commercy. C'est Christine voilà, qu'on a pu joindre ce matin. Il y a aussi, au-delà de la situation personnelle, la responsabilité individuelle des parents. Parce que c'est ce que j'ai trouvé assez paradoxal dans votre livre. Vous nous expliquez, Selim Derkaoui, qu'effectivement, il y a, la société et l'État peut sans doute mieux accompagner ces femmes, mais laisse pas traîner ton fils dans la chanson de Suprême MTM, puisque c'est un titre qui est emprunté à ce groupe. Il est bien question d'amour. Il faut exprimer son amour à son enfant pour qu'il ne cherche pas ailleurs l'amour qu'il devrait avoir dans tes yeux. Je cite de mémoire, je cite de tête.
Bah, c'est exactement ça. Et en fait, dans la chanson, il s'exprime à leur père qui est absent.
C'est
pas,
ça.
Voilà, pas à la mère, mais en fait, le titre, je l'ai aussi utilisé parce que c'est une forme d'injonction qui peut être utilisée aussi contre les mères.
Ah.
Voilà, c'était un peu ça l'idée. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de textes de rap qui parlent de l'absence paternelle parce qu'il y a, bah, comme pendant les urbaine, beaucoup de jeunes rappeurs des quartiers aussi qui ont eu leur père absent, soit il est reparti au bled. Donc aussi, il y a toutes ces questions-là de l'immigration et de la colonisation qui a un peu brisé des familles aussi. Ça, c'est, en tout cas, je l'aborde dans le livre plus en détail.
Mère seule, c'est un titre du rappeur Rof aussi. Il y a beaucoup de références dans ce répertoire. Ça vous arrive de dire ça dans votre bureau, Manon Lefebvre ?
Certainement pas, non.
Laisse pas traîner ton
non,
fils.
Non, non, vraiment, il y a une responsabilité parentale, mais il y a une responsabilité de l'État aussi, ouais, vis-à-vis de ses citoyens et ses enfants font partie. Et on est là pour accompagner ces mineurs qui, à un moment donné, commettent des infractions et des parents qui sont dépassés. Et l'État ne peut pas se décharger de sa responsabilité pour accuser uniquement les parents.
Merci Manon Lefebvre d'avoir été avec nous. Laisse pas traîner ton fils, Selim Derkaoui, c'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci d'avoir été avec nous. 13h46 sur Inter. Notre feuilleton, nous sommes toute cette semaine avec le romancier suisse Joël Dicker qui publie la très catastrophique Visite du zoo. Dicker, auteur singulier qui attache un soin tout particulier à sa communication, portée par l'ancienne attachée de presse de Johnny Hallyday, Anne-Sophie Apparis.
Il est pas mal sollicité par des marques de maroquinerie, de bijouterie, de montres suisses bien évidemment, de stylos, de chaînes d'hôtels. On n'a pas cédé à ça pour l'instant. Mais peut-être un jour.
Je trouve très important que les écrivains fassent de la pub. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que les écrivains sont au même niveau que des joueurs de foot, que des musiciens, que des artistes. L'idée que des écrivains puissent être quelque chose de moderne, de branché,
de sexy,
de cool, de sexy, c'est génial.
En fait, j'ai reçu un mail un jour de Joël, un grand mail. Et en gros, il a dit... Voilà comment la communication existe dans l'édition et c'est tout ce que je ne veux pas. Il a dit, moi j'ai envie de quelqu'un qui va travailler différemment.
Je cherchais une attachée de presse qui n'était pas dans le milieu de l'édition parce que j'avais le sentiment que pour faire lire des gens, il faut surtout faire lire les gens qui ne lisent pas encore. On s'adresse toujours aux gens qui lisent déjà. Et c'est très bien de s'adresser à eux, mais il faut surtout, surtout s'adresser aux gens qui ne lisent pas encore. C'est eux qu'il faut aller trouver. Et donc je me suis dit... Qui pourrait sortir la littérature de son carcan de la littérature ? Je me suis dit, une attachée de presse qui n'en fait pas.
C'est assez marrant parce qu'en fait, c'est un milieu que je ne connais pas du tout. J'y amène mes codes qui sont parfois un peu déstabilisants pour certains journalistes, pour certains médias. Il y a des comportements de certains journalistes littéraires. C'est assez marrant, moi j'aime bien, je fais du tourisme en fait. Non mais c'est vrai, tout se passe très très bien, hein.
J'ai tapé sur Google, meilleur attaché de presse Paris, quelque chose comme ça. Son nom est apparu, donc je l'ai contacté. Et voilà, 8 ans après.
Je travaillais pour plein d'autres gens, dont une personne qui n'était autre que Johnny Hallyday. Le jour de notre rendez-vous, c'était le jour de mon retour de Saint-Barth où on avait enterré Johnny. Je vous laisse imaginer 15 jours à dormir assez peu, organiser les obsèques à la Madeleine, tout ça. Partir, donc du jour au lendemain, à Saint-Barth pendant 3-4 jours. On est rentré complètement sur les rotules. Chacun regardait son agenda et je me suis dit « Merde !» J'ai rendez-vous avec Joël Dicker à 19h ce soir et le mec vient exprès de Genève, quoi. Donc je peux décemment pas lui dire « Bah non, finalement, je peux pas. » On a parlé de 19h à minuit. L'idée, c'était de le travailler, entre guillemets, j'aime pas tellement ce terme, comme avec quelqu'un du showbiz, en fait. Il y a pas longtemps, on a fait « Qui veut gagner des millions ?», qui est quand même l'émission la plus populaire de France, en prime time sur TF1, en binôme avec Florence Foresti. Je pense pas avoir beaucoup vu d'auteurs dans des émissions dites de variété. C'est un garçon délicieux. C'est un garçon bien élevé, il est beau gosse, il est intelligent, il est drôle, il est jeune, et puis surtout, il fit, quoi, vous voyez, il n'est pas là, il a regardé ses pompes quand il arrive, c'est pour ça, en fait, le plan promo, c'est aussi lui qui le fait. Oui, je l'engueule parfois, souvent. Vous savez, les artistes, ils sont tellement admirés, adulés, on les coiffe, on les maquille, j'en ai même vu certains qui se faisaient chausser. Donc, à un moment donné, ils ont besoin aussi, parfois, d'avoir en face quelqu'un qui sait, qui dirige. Je mets pas du sucre sur la meringue. Je suis pas brutale, mais voilà, je vais droit au but.
Notre feuilleton avec Joël Dicker, signé Ilana Mor-Youssef. Dernier épisode demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h50 le mercredi. Le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Éric, à l'approche du 8 mars, vous nous dites qu'en France, les femmes ne peuvent pas toujours prétendre à leurs droits élémentaires.
C'est vrai, Jérôme, à 3 jours de la Journée mondiale du droit des femmes, j'ai voulu me pencher sur les obstacles qui, aujourd'hui encore, empêchent les femmes de disposer librement de leur corps et aussi de connaître le plaisir. Je parle bien sûr de la France, notre pays dans lequel, faut-il le préciser, l'excision est interdite et le droit à l'avortement reconnu depuis désormais un demi-siècle avec la loi Veil de 1975. Un droit reconnu dans la Constitution, il y a tout juste un an, suite aux inquiétudes nées aux États-Unis et en Italie sur la remise en cause de cette avancée majeure pour les femmes. La France est ainsi devenue le premier pays au monde à inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans sa loi fondamentale. En 2023, dernière année recensée, près de 244 000 femmes ont avorté, du jamais vu depuis 1990, à la hausse. Uh-huh. Autre donnée importante, 140 000 femmes excisées vivent en France, la moitié en région parisienne, en particulier en Seine-Saint-Denis.
Mais pourquoi faut-il encore combattre sur ces sujets qui sont apparemment bien identifiés et correctement traités ?
Il faut lire l'entretien édifiant, Jérôme, publié cette semaine dans le 1 entre deux Sarah. La gynécologue Sarah Abramovitch, responsable à Montreuil de l'unité de prise en charge des femmes victimes de mutilations sexuelles, et la militante féministe Sarah Durocher, présidente depuis 2022 du planning familial. S'agissant de l'excision, observe Sarah Abramovitch, la réparation purement chirurgicale ne règle pas les problèmes de ces femmes. Outre ces mutilations, elles ont souvent subi des mariages forcés, des viols, des agressions, un parcours migratoire terrible. Il manque ainsi de soins multidisciplinaires qui prennent en compte ces traumas. Et au plan politique, c'est la double peine. L'extrême droite s'oppose à ces soins de réparation au prétexte qu'il concerne surtout des femmes noires et immigrées, quand une partie de l'extrême gauche voit encore dans ses pratiques une tradition culturelle et qu'il ne faudrait pas stigmatiser ces populations.
Et concernant l'avortement, quels sont les obstacles ?
Alors, que l'IVG soit inscrit dans la Constitution ne règle pas tout, insiste la présidente du planning familial, Sarah Durocher. Les médecins peuvent toujours refuser de la pratiquer, faire écouter le cœur du fœtus pour culpabiliser les femmes qui veulent avorter, faire de la désinformation avec des numéros verts anti-IVG très bien référencés sur Google grâce au gros budget des groupes anti-choix. Le combat contre les tabous reste aussi vraiment à mener. À preuve, toutes ces patientes qui tentent de se justifier et parfois de s'excuser auprès des médecins de vouloir interrompre leur grossesse. Enfin, l'action publique dans ces domaines n'est pas ou très mal financée. Le pire exemple vient du Conseil régional des Pays de Loire qui a récemment privé le planning familial de l'intégralité de ses subventions au mépris de toute son action qui, au-delà de l'IVG, répond aux problèmes de santé sexuelle et psychologique en milieu rural. Voilà pourquoi, Jérôme, à l'approche de cette journée du 8 mars consacrée consacrée aux droits des femmes. Le chemin reste long en France, mais plus long encore dans bien des pays du monde.
Et c'est à lire dans le 1 Hebdo cette semaine ?
Oui, c'est Femmes qui résistent avec des textes de la militante féministe américaine Gloria Steinem et la journaliste d'origine iranienne Delphine Minoui. Et puis un poster de l'artiste Joël Jolivet qui représente, vous savez, cette jeune étudiante Aoud Daraei, symbole de la révolte des femmes iraniennes qui s'était dénudée en plein Téhéran en novembre 2024.
Poster à déplier puisque c'est la grâce de votre journal. Cher Eric, de C'est la France à C'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est une ancienne danseuse étoile du ballet de l'Opéra de Paris. Il s'agit de Marie-Agnès Gilot.
On peut la voir actuellement dans For Gods Only, un solo de 50 minutes imaginé pour elle par le chorégraphe Olivier Dubois. Le spectacle se joue à partir de demain au Théâtre des Bernardines à Marseille. Et c'est une chanson de Romain Brault qu'elle a souhaité que l'on écoute. Romain Brault, un artiste pluridisciplinaire, chanteur, mannequin, acteur, figure de Madame Arthur, le premier cabaret travesti de Paris. C'est là que Marie-Agnès Gilot l'a rencontré dans son costume de scène il y a quelques années et ils sont depuis devenus de grands amis.
C'est quelqu'un de passionnant, de très humain, quelqu'un qui se construit et qui se bonifie avec le temps. C'est aussi le parrain de mon fils. Voilà, c'est un homme que j'admire, qui est beau à l'extérieur comme à l'intérieur.
Et vous avez toujours été touchée singulièrement par les garçons qui assument à ce point leur féminité et qui aiment revêtir des vêtements de femmes ?
Oui, et puis en même temps, dans la vie, ce sont vraiment des garçons. C'est ça que j'adore, quoi. Enfin, par exemple, Romain, il n'y a pas plus garçon que lui dans la vie, quoi. Il a les mains dans le cambouis, il fait des trucs. Et puis après, on le voit sur scène, il a les ongles peints et tout. J'imagine que les gens ne soupçonnent pas cette dualité chez ces personnalités-là, en fait. Elles sont autant masculines que féminines.
Allez, sortez les briquets, le pétrole et l'alcool, craquez les allumettes. Allumez le lance-flamme, larguez même le napalm, décollez la comète. Montez le thermostat, au feu la fashionista, la putain la vedette. Chercher les jerrycans, on s'en va brûler la Suzanne, ça va être notre fête. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Pour ce que je touche du doigt et parce que j'ai jamais eu froid, brûlez-moi pour tout ce que je peux être. Du doigt, mais parce que j'ai jamais eu froid, brûlez-moi comme vous brûliez mes ancêtres.
Alors, cette chanson, Frédéric, s'appelle donc « Brûlez-moi ». Elle est sortie l'an dernier sur « Je suis demain », le premier album de Romain Brault.
Un album dans lequel il aborde le fait de s'être toujours senti différent des autres. Un sentiment qu'a d'ailleurs également connu Marie-Agnès Gilot.
Par mon handicap, forcément, dès le début, je me suis sentie différente. Parce que plâtrée dans un corset, enfin en tout cas c'est la même sensation, 21 heures par jour. Et de supporter surtout cette douleur et cet enfermement.
La scoliose,
je me suis sentie tout de suite différente.
21 heures de corset.
Par jour, ouais.
De quel âge à quel âge ?
De 11 ans à 18.
Toutes les années où vous avez été enfermée dans ce corset, vous dansiez malgré tout ?
Bien sûr, oui. Parce qu'en fait, quand j'étais à l'école de danse, on n'avait que deux cours d'une heure et demie de danse. Donc j'enlevais mon corset juste pour ces 3 heures, en fait.
Et personne ne l'a jamais su ?
Non, parce que j'avais des techniques, je m'habillais en première, je me rhabillais en dernière. Donc j'étais tout le temps à contresens des autres dans le vestiaire, en fait.
Des proches étaient au courant malgré tout ?
Que ma famille. Et les deux filles de ma chambre.
Qui ne l'ont jamais dit ?
Non. Et c'est pire encore maintenant, en fait. Hein. C'est une maladie évolutive, donc c'est de pire en pire. Puis j'ai une bosse dans le dos qui a une vraie différence aussi. Quand je me fous de moi, je m'appelle Quasimada. Voilà, c'est mon surnom.
Elle se voit, cette bosse ?
Ah oui, elle se voit, oui.
Tant mieux si on me montre du doigt. C'est parce que je montre le chemin. Quand on me regarde, on dit c'est quoi ?
Ce qu'il chante dans cette chanson, est-ce qu'il vous est arrivé de le penser, parfois ? Brûlez, brûlez, brûlez-moi.
Oui, très jeune.
Les débuts du corset ?
Ouais, mais oui, ma mère a dû avoir les mots justes. ça m'est passé.
Vous disiez que Romain Brault était le parrain de votre fils.
Ouais.
C'est un parrain très chouette.
Ah ouais, super chouette. Et puis il le considère comme son fils, et c'est beau à voir.
Il appartient à votre famille, en fait.
Oui. Et pour la vie.
Brûlez-moi, Romain Brault, c'était donc Frédéric Lechoix. Et les confidences de Marie-Agnès Gillot.
Ancienne danseuse étoile du ballet de l'Opéra de Paris que l'on retrouve dans le spectacle For Gods Only, spectacle à voir jusqu'au 15 mars à Marseille, puis en avril à La Ciotat, à Roanne et Noisy-le-Grand.
Merci Frédéric et à demain.